Un homme d'État si bouillonnant qu'il peut paraître étrange. Voilà un roi, celui d'un pays qu'avec orgueil je considère un peu comme le mien, le Cambodge. Norodom Sihanouk, loué pour ses dons multiples, se veut prince, monarque, père du roi actuel, mais surtout comédien, cinéaste, musicien et bellement désordonné. Notre entretien, c'était en 1979.
Vous êtes, prince Norodom Sihanouk, l'un des personnages les plus en vue de cette fin du XXe siècle et vous l'êtes dans des conditions dramatiques, tragiques. Vous avez été roi, roi du Cambodge. Vous avez été toujours en haute altitude, au sommet du pouvoir, des honneurs. Certains vous ont cru prophète. Et c'est tout un peuple qui connaît aujourd'hui le martyr. Le Cambodge est aujourd'hui victime d'un génocide, et le mot n'est pas trop fort, hélas, et vous êtes vous-même en errance à travers le monde. Alors, je voudrais savoir, car il est important de connaître un peu mieux l'homme, au fond de son cœur, de quelle faute, personnellement, vous vous accusez, vous, prince Norodom Sihanouk? Êtes-vous responsable? À certains égards, vous considérez-vous comme coupable?
Je ne peux pas me juger, c'est à l'histoire, c'est à l'humanité de me juger. Ceci dit, je pense que j'aurais pu sauvegarder la paix, une paix relative d'ailleurs, mais la paix quand même, au Cambodge, pour mon Cambodge, à travers... cette épreuve que subissait le Vietnam dans les années 60 et 70, si, d'une façon imprévisible, mon homme de confiance, le général Lon Nol, que j'ai fait mon premier ministre, ne m'avait pas
trahi
et n'avait pas fait un coup d'État contre moi le 18 mars 1970. Parce que je pouvais manœuvrer entre les deux eaux, l'eau américaine et l'eau vietnamienne. J'aurais pu m'en sortir, c'est-à-dire le Cambodge aurait pu s'en sortir.
Vous n'avez pas l'impression d'avoir eu trop confiance en vous?
Oui, on me dit que j'ai eu trop confiance en moi. L'illusion que j'étais assez fort pour mener à bon port le Cambodge me venait sans doute d'une très grande popularité dans les masses populaires. C'est vrai que j'ai eu à faire face à une certaine opposition venant de l'élite, venant des intellectuels, lesquels, d'ailleurs, ne manquaient pas de dire que Sihanouk ne pouvait tromper que les ignorants. Or, on oublie trop souvent que c'est moi qui ai construit toutes ces écoles, tous ces collèges, tous ces lycées, ces universités qui ont produit quand même ces intellectuels-là, n'est-ce pas? Et les Khmer Rouges eux-mêmes, les Pol Pot, les Ieng Sary, les Khieu Samphan, les Hu Yuen Hunam, ils avaient obtenu du roi Sihanouk des bourses d'études. Ils ont pu venir en France pour faire leurs études supérieures, pour devenir communistes. Ils étaient communistes de style français. Et en 1955-56, quand ils sont retournés à Phnom Penh, alors ils ont trouvé ouverte déjà l'ambassade de la République populaire de Chine, laquelle n'a pas manqué naturellement de les prendre en charge. Alors de communistes style Maurice Torres, ils sont devenus des maoïstes et ils ont embrassé la révolution culturelle et ils ont voulu même battre leur maître, leur gourou là sur le terrain.
Vous avez la haine des communistes? Vous avez la haine des communistes aujourd'hui?
Aujourd'hui, oui, j'ai la haine du communisme, bien que je reste ami des Chinois et des Nord-Coréens. Ceci dit, si j'ai quelque chose à me reprocher, c'est ceci. Je pense que l'armée royale Khmer était tout de même quelque chose qui comptait dans la stabilité du Cambodge. Et cette armée s'est séparée de moi depuis 1963, l'année où j'ai... parce que j'étais devenu de plus en plus anti-impérialiste et quelque peu gauchiste sous l'influence de mes amis tels que les présidents Sukarno d'Indonésie et Nasser, Gamal Abdel Nasser d'Égypte. Et aussi du fait que j'étais de plus en plus attaqué au sujet de mon neutralisme par la presse occidentale, la presse américaine en particulier. Alors, n'est-ce pas, je me suis fâché carrément contre l'Occident et en particulier contre les États-Unis d'Amérique. J'ai rejeté l'aide américaine parce que je soupçonnais et j'accusais la CIA d'avoir monté des complots contre moi. Il y a eu des complots, plusieurs complots contre moi.
Et vous avez accusé tout le monde, d'ailleurs.
Enfin, tout le monde, non, ce serait trop dire. Mais en tout cas, les Américains, ce que j'appelais impérialistes. Alors là, n'est-ce pas, maintenant, après avoir connu les Khmer Rouges, surtout après 1955, ils se sont démasqués, on les croyait des révolutionnaires, durs mais purs aussi. Mais c'était des gens très rétrogrades, c'était des barbares, et c'était des sadiques, c'était des criminels. Et je dirais même des bandits, n'est-ce pas? Alors là, n'est-ce pas, après avoir connu ce qu'on appelait le socialisme, le communisme sous Pol Pot, je trouve que l'impérialisme américain, c'est quelque chose quand même, sinon d'adorable, tout au moins, de très acceptable. Si j'avais à recommencer ma carrière, j'aurais accepté... continuer d'accepter les aides américaines, mon armée ne m'aurait pas trahi.
L'erreur, elle est là.
Et l'erreur est là. L'erreur est là. J'ai fait mon mea culpa devant les Américains eux-mêmes. Ils ont été très touchés, d'ailleurs. Ils m'ont dit, c'est très généreux de votre part, Prince Yanou. Mais le fait est que j'ai commis aussi mon erreur. Ça a été l'erreur capitale. Il est de fait que ni les Khmer Rouges, ni les étrangers... n'aurait pu me déboulonner. Si j'avais l'armée royale avec moi, je n'aurais pas été déboulonné et mon Cambodge s'en serait sorti.
Prince Norodom Sihanouk, sans doute vous arrive-t-il parfois de regarder un peu le cours de votre vie. Et votre vie est exceptionnelle. Vous êtes prince, vous devenez roi à l'âge de 18 ans. Ensuite, vous décidez d'abdiquer, vous abdiquez en faveur de votre père, le roi Suramarit. Vous devenez à ce moment le chef de l'État. Ensuite, pardonnez-moi le mot, mais vous flirtez avec beaucoup de pays, vous flirtez même avec Pékin. Puis arrive ce génocide, arrive cette tragédie, et vous êtes aujourd'hui en France. Et alors là, je me demande si vous avez encore de l'espoir pour un pays qui se meurt et que l'on tue.
Vous savez, on m'a reproché très récemment de changer tout le temps d'avis. Parce que à New York, j'ai dit que je prenais ma retraite après avoir été l'avocat de mon pays au Conseil de sécurité. J'ai fait condamner, d'ailleurs, sauf le veto soviétique, bien sûr, j'ai fait condamner l'invasion du Cambodge par le Vietnam, par le Conseil de sécurité. Alors, je me suis retiré ensuite à Pyongyang plutôt qu'à Pékin parce que je désapprouvais la Chine qui continuait à soutenir et continue de soutenir, n'est-ce pas, les Khmer Rouges. Alors, je prenais tranquillement ma retraite à Pyongyang lorsque mes compatriotes, de plus en plus nombreux, n'est-ce pas, m'ont forcé en m'envoyant des lettres, des télégrammes à venir en France.
À reprendre le combat.
À reprendre le combat. Ils me disaient que je n'étais pas digne d'être considéré comme le papa de la nation. Ils m'appellent toujours Sambdaik Papa, c'est-à-dire Monseigneur Papa. N'est-ce pas? Et ils disent, qu'est-ce que vous faites là, Monseigneur Papa, à Pyongyang? Vous avez un beau palais, vous menez une vie tranquille, vous êtes un égoïste, vous n'êtes pas digne d'être appelé le papa de la nation. Alors venez reprenez le collier, n'est-ce pas? Il faut vous battre pour essayer quand même de sortir le Cambodge de cette humiliation. Il faut libérer le Cambodge, mener une nouvelle croisade. Car j'avais mené dans les années 50 une croisade pacifique, d'ailleurs, pour l'acquisition d'une complète indépendance pour mon pays. En 1953, j'ai pu acquérir cette indépendance avec l'accord de la France.
Mais regardons aujourd'hui. Vous êtes, pour un peuple, la solution. Vous êtes peut-être l'homme miracle. Êtes-vous capable aujourd'hui? Avez-vous la volonté d'aller jusqu'au bout de l'entreprise? Parce que ils sont nombreux, les Cambodgiens, disséminés à travers le monde, enfin exilés, et ce mot est effroyable. Tout à l'heure, nous en parlions, vous m'avez dit qu'il y avait 700 000 Cambodgiens en Thaïlande.
700 000 Cambodgiens en Thaïlande.
Il y en a 30 000 en France.
30 000 en France, presque le même nombre aux États-Unis d'Amérique, et quelques milliers éparpillés dans le reste du monde.
Alors là, vous êtes avec quelques-uns de vos amis dans ce studio, l'un était votre colonel.
C'est ça, mon aide-camp, officier de l'armée royale.
Il est épicier aujourd'hui.
Maintenant, épicier, vous savez, ils sont comme les grands ducs, les comtes de l'empire tsariste qui, après la révolution, ce sont les Russes blancs. Vous savez, on a des grands ducs, on avait des grands ducs à Paris qui étaient chauffeurs de taxi.
Mmh. Oui, mais on ne peut pas rester peut-être chauffeur de taxi toute la vie. Peut-être espère-t-il revenir.
Oui. Oui,
l'épicier, l'hôtelier, vos amis, là.
C'est ça, mon ami Craig Bundy, qui est propriétaire d'un hôtel. Oui, tous espèrent revenir. Vous savez, les officiers qui m'ont déposé le 18 mars 1970, maintenant, ils sont avec moi, ils me disent, Prince Sihanouk, formons une armée, formons de nouveau notre armée nationale, vous êtes notre commandant suprême, fonçons. Je dis, bon, fonçons.
Vous êtes capable de foncer?
Je suis capable et je peux obtenir pour cette armée, n'est-ce pas, les armes, les munitions nécessaires. Je suis ami avec la Chine, continue à soutenir les Khmer Rouges, mais
il y a une ambiguïté, on ne peut pas aimer la Chine et aimer un pays qui soutient les Khmer Rouges.
Non, aimer ou pas aimer, la question n'est pas là. Mais s'il faut armer une armée nationaliste, n'est-ce pas, il faut bien s'adresser...
Compter avec tout le monde.
Oui, compter avec tout le monde. Les Américains sont très timides à l'heure actuelle avec Jimmy Carter. Jimmy Carter, c'est pas Nixon. Ils ne foncent pas. Alors, la Chine fonce. Elle dit, elle me fait savoir qu'elle soutiendra tous les Cambodgiens qui veulent se battre contre son ennemi, là, le Vietnam. Or, il se trouve que nous devons nous battre contre le Vietnam pour essayer de redonner son indépendance nationale au Cambodge.
Oui, Monseigneur, c'est un pays que je connais bien, ce pays qui est le vôtre. Je rencontre quotidiennement des Cambodgiens et tous sont inquiets et tous sont étonnés, surtout plus qu'inquiets encore, parce que c'est vrai, et on le sait maintenant, Hitler a supprimé un monde. Certains affirmaient à ce moment-là qu'ils ne le savaient pas. Aujourd'hui, impossible d'ignorer ce qui se passe au Cambodge. Et pourtant, on ne fait rien. Et il n'y a qu'une formidable bonne volonté. Alors, je voudrais savoir quel est votre sentiment. Parce que c'est bien beau de dire c'est effroyable ce qui se passe, et dans le même temps, de ne rien faire.
Sur le plan humanitaire, je pense que la France a une conduite exemplaire. Elle fait le maximum pour nous. C'est pourquoi, dernièrement, j'ai demandé à son Excellence le président Giscard d'Estaing d'amener les autres pays nantis, les autres pays riches, à non pas tellement donner plus d'aide aux Cambodgiens, au Cambodge, chez Heng Samrin, mais les amener à accepter plus de réfugiés cambodgiens chez eux. En France, on accepte beaucoup de réfugiés cambodgiens. En Amérique aussi, moins que la France proportionnellement, mais les autres pays nantis, même le Japon qui est notre grand frère, là, qui est asiatique, il est encore très égoïste, le Japon. Il faudrait que tous les pays nantis dans le monde offrent leur hospitalité à plusieurs centaines de milliers de Cambodgiens, surtout ceux qui sont dans des camps de misère en Thaïlande et qu'il faudrait enlever de là.
Mais Prince Norodom Sihanouk, je vais vous dire mon propre étonnement. Vous faites beaucoup de voyages. Hier, c'était la Chine, l'Amérique aussi. Aujourd'hui, c'est la France. Demain, ce sera encore l'Amérique, car vous allez faire une tournée de conférences. Oui. Et je dois le dire, les mois passent. Et d'une manière très officielle, vous n'êtes même pas le représentant du Cambodge. Alors n'avez-vous pas l'impression de perdre du temps? Vous êtes ici en France et peut-être que votre place n'est pas ici. Elle ne serait pas plutôt du côté de la Thaïlande, à la frontière, voilà, avec les Thaïlandais eux-mêmes, et non pas ici, parce que je ne crois pas qu'on puisse en tenir à ce que l'on fait maintenant.
Oui, on dit que je suis trop attaché, n'est-ce pas, à la gastronomie française, c'est pourquoi je m'incruste en France. Non, je n'ai pas l'intention de m'incruster en France. Voyez-vous, n'est-ce pas, j'ai envoyé plusieurs requêtes au gouvernement de Bangkok pour lui demander la permission de me rendre en Thaïlande. C'est là où se trouve le plus grand nombre de mes compatriotes. Pour le moment, il n'est pas question pour moi d'aller chez Heng Samrin, n'est-ce pas, le Kisling, n'est-ce pas, des Vietnamiens. Mais je pourrais être très utile dans les camps de réfugiés en Thaïlande. Et je viens encore d'écrire une lettre personnelle, une lettre manuscrite à M. Krean Sak Chamanon, Premier ministre de Thaïlande, pour le supplier de me permettre d'entrer en Thaïlande. Mais vous savez, les Thaïlandais me disent que... on dit aux autres qu'ils me détestent cordialement et qu'ils me considèrent comme un ennemi, le pire ennemi de la Thaïlande. Ils ne me pardonnent pas d'avoir réussi à récupérer un temple de style angkorien là près de la frontière thaïlandaise qu'ils avaient occupé dans les années 60. J'ai gagné le procès de La Haye qui m'a permis de récupérer ce temple pour mon pays. Et en outre, les Thaïlandais, comme les Vietnamiens, voudraient avoir des kislings, c'est-à-dire avoir plutôt des Cambodgiens flexibles, des Cambodgiens qui courbent les chines, qui seraient prêts pour assouvir leurs ambitions personnelles à, n'est-ce pas, servir les intérêts, n'est-ce pas, de l'un ou de l'autre des grands voisins. Moi, les grands voisins savent à quoi s'en tenir avec un Sihanouk. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le Vietnam me condamne. Maintenant, Pham Van Dong, dernièrement encore, la télévision française a dit « Sihanouk, c'est fini ». Et puis les Thaïlandais disent « Pas de Sihanouk, surtout pas de Sihanouk ». Alors, que puis-je faire? Et même mon armée, par où pourrait-elle s'introduire au Cambodge?
On va y revenir, Prince Sihanouk. D'abord, avez-vous été frappé d'une manière personnelle? Où sont vos enfants? Où est votre famille? Elle est dispersée, c'est le moins que l'on puisse dire.
Voilà, n'est-ce pas en septembre 1975, c'est-à-dire quelques mois après la victoire Khmer Rouge, les Khmer Rouges ont gagné remporté la victoire finale sur les Américains et l'ONOL le 17 avril 1975. J'ai demandé aux Khmer Rouges la permission de rentrer tout de suite en mon pays, car je les avais beaucoup aidés à gagner cette guerre. Ils avaient utilisé largement mon nom auprès des paysans, des masses rurales qui me soutenaient pour avoir des recrues pour leur armée de libération nationale, etc. Mais les Khmer Rouges m'ont fait attendre jusqu'à septembre 1975. À cette époque-là, je ne savais pas que les Khmer Rouges devaient passer tout ce temps-là à liquider les membres non communistes du Front Uni, c'est-à-dire les Sihanoukistes.
Vous ne le saviez pas?
Je ne le savais
pas. Vous ne pouviez pas le savoir?
Je ne pouvais pas le savoir. Mais ils me disaient tout le temps qu'ils devaient, n'est-ce pas, liquider les dernières poches de résistance des pro-américains, etc., etc. Alors, en septembre, Khieu Samphan et Mme Yeung Sari, la femme du numéro 2 du régime de Pol Pot, là, on parle du régime de Pol Pot, Yeung Sari, eh bien, Mme Yeung Sari et M. Khieu Samphan, mon successeur à la tête de l'État cambodgien, là, ils sont allés à Pékin pour m'inviter à rentrer. C'était en septembre. À ce moment-là, le président Mao Tse-tung était encore vivant. Alors, il a bien recommandé à Khieu Samphan et à Mme Yeung Sari de ne pas faire de mal, n'est-ce pas, à Sihanouk, à Madame Sihanouk, Monique Sihanouk, et à nos enfants, c'est-à-dire Monique a deux enfants, moi j'ai d'autres enfants. Alors j'ai demandé...
Où sont-ils, tous ces enfants?
Oui, justement, j'ai demandé aux autres enfants aussi de m'accompagner au Cambodge. Je leur disais, c'est notre pays, même s'il est devenu rouge, tant pis, n'est-ce pas, nous devons, en tant que Cambodgiens, rentrer au Cambodge et non pas rester, car j'estime que c'est une humiliation, rester des réfugiés à l'étranger, même dans des pays très amicaux. Alors ils sont rentrés. Et Après avoir vu que mon peuple souffrait surtout des travaux forcés et après avoir échoué auprès des Khmers Rouges pour les amener à adoucir le régime, j'ai donné ma démission en avril 1976. Et le lendemain, ils ont, à part les deux enfants de Monique, parce qu'ils avaient promis à la Chine populaire... dont il dépendait tout à fait, n'est-ce pas, alors de ne pas faire du mal à Monique, à ses enfants et à moi. Alors, ils ont envoyé dans des coopératives, c'est ce qu'ils disaient, ces Khmer Rouges, ils ont envoyé mes deux enfants, mes autres enfants qui appartenaient à la résistance. C'était deux fils, deux filles, deux gendres et 14 petits-enfants. Ils les ont envoyés soi-disant dans des coopératives, mais maintenant que je suis en France, il y a des réfugiés qui sont sortis récemment du Cambodge et qui sont maintenant à Paris, ils me font savoir que ces enfants et petits-enfants, ils les ont massacrés. Les Khmers Rouges les ont massacrés.
C'est une grande détresse pour
c'est
vous.
C'est une très grande détresse. Je suis traumatisé par cet accident qui m'arrive parce que j'ai beaucoup de remords. Il y a des
Mais enfants. Vous n'en parlez que très rarement de vos
si,
enfants.
Si, j'en parle, monsieur. J'en parle, oui. Oui. J'en parle, j'en ai parlé, et en particulier lors de l'émission Les dossiers de l'écran, parce que on m'a reproché, n'est-ce pas, violemment, d'avoir cautionné les Khmers Rouges. Mais si je savais que c'était des monstres, je n'aurais pas, tout de même pas pu, n'est-ce pas, envoyer à cette boucherie Khmer Rouge, n'est-ce pas, les enfants, les petits-enfants qui sont sortis de mon sang et sont issus de mon sang et de ma chair, tout de même.
Voilà. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu prisonnier depuis très longtemps et que vous n'êtes même plus maître de votre destin et que cela est terrible ?
Je ne suis plus maître de mon destin dans la mesure où je suis très attaché à mon Cambodge, qui n'est plus, lui, maître de son destin. Aucun Cambodgien n'est plus maître de son destin. Le Cambodge et les Cambodgiens dépendent du Vietnam, dépendent de l'Union soviétique, dépendent de la Chine, dépendent de la Thaïlande, mais nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Mais est-ce que, comme m'ont dit ici mes partisans, est-ce que c'est une raison pour nous d'abdiquer ? Nous ne devons pas abdiquer. Nous sommes les héritiers d'une grande civilisation, la civilisation d'Angkor. Nous avons été un grand peuple. Mourir pour mourir, il faut mourir dignement. C'est ce que m'ont dit mes partisans, parce que moi, j'étais plutôt partisan, n'est-ce pas, non pas de renoncer, n'est-ce pas, à combattre, mais de chercher seulement à résoudre le problème sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Mais mes partisans, mes supporters, eux, ils sont partisans, n'est-ce pas, d'une lutte armée.
Oui, même, alors là, nous arrivons au creux, oui, au nœud du problème.
Ça. Même si la lutte s'avère sans espoir.
Non, mais là, parce que là, il faut être très précis. Vous avez toujours hésité en... Et je dois le dire par diplomatie, entre deux options. Il y a la politique, c'est-à-dire une solution politique, et puis il y a, il faut bien le dire, la guerre. C'est-à-dire, allez-vous créer une armée ? Alors, il faudrait savoir aujourd'hui ce que vous voulez, prince Norodom Sihanouk. On ne peut plus attendre, ce peuple ne peut plus attendre, et vous êtes le seul qui peut, qui doit, même si certains ne vous aiment pas, ils l'ont dit. Même Pol Pot, encore récemment, disait « Je serais prêt à mettre mes troupes à la disposition du prince Sihanouk s'il fallait que le Cambodge fût sauvé. » Alors, répondez-moi franchement, aujourd'hui, êtes-vous capable, êtes-vous décidé à créer une armée cambodgienne qui va se battre, puisque les médicaments n'arrivent pas et puisque les bonnes volontés ne servent à rien ?
Vous savez, non seulement je suis décidé à créer une armée, mais je suis en train de la créer parce que j'ai des réunions. Enfin, je le dis avec le sentiment que je trahis quelque peu la confiance que place en moi le président Giscard d'Estaing. Monsieur François Poncet, ministre des Affaires étrangères de France, m'a bien demandé de ne pas parler d'armée, de ne pas essayer de créer une armée sur le sol français. Nous avons quelque peu trahi la confiance du gouvernement français, parce que nous parlons de cette création ici même. J'ai des réunions, n'est-ce pas, qui ont l'air d'un complot, n'est-ce pas, ici, puisque la France n'est pas favorable, n'est-ce pas, à la création d'une armée. D'ailleurs, après la France, j'irai aux États-Unis d'Amérique, j'aurai des réunions avec les officiers cambodgiens qui sont aussi très nombreux en Amérique. Nous allons constituer cette armée. Les soldats nous seront fournis par le volontariat, n'est-ce pas, qui est déjà exprimé par leurs émissaires qui
qui sont arrivés à Paris, n'est-ce pas, exprimée par les milliers de jeunes gens qui se trouvent dans les camps de réfugiés cambodgiens, n'est-ce pas, en Thaïlande. Et même, on me dit, n'est-ce pas, ces compatriotes en Thaïlande me font savoir que le jour où je pourrai, n'est-ce pas, mettre les pieds sur le sol cambodgien, dans le maquis, bien entendu, alors là, n'est-ce pas, même beaucoup de Cambodgiens chez Heng Samrin vont lâcher Heng Samrin pour se rallier à moi. Donc, la question de l'armée est résolue. Et il ne reste plus qu'à négocier avec les Chinois pour avoir les armes et les munitions voulues. C'est ce que je ferai. Je ferai très, très rapidement. Et puis, alors, il restera la grande question. C'est, vous voyez, la Thaïlande qui soutient les Khmer Rouges, qui soutient le groupe de mon ancien premier ministre, M. Son Sann, lequel fait savoir au monde entier maintenant qu'il ne se joindra pas à moi. Et là, n'est-ce pas, la Thaïlande, ayant décidé plutôt d'être anti-Sihanouk, elle constitue l'obstacle. Moi, je suis tout à fait décidé, n'est-ce pas, à foncer. Mais est-ce que je pourrais le faire avec une Thaïlande réticente? Alors là, n'est-ce pas, il faudra étudier aussi une pénétration par la mer. Il y a des radars russes qui surveillent tous les mouvements de bateaux, même des bateaux de pêche les plus insignifiants. Est-ce que nous pourrons pénétrer par la mer? Je suis en train d'étudier ça aussi.
Vous pouvez compter sur combien d'hommes? Vous pouvez compter sur des volontaires? Vous seriez capable de lever une armée aujourd'hui?
Mais l'armée est déjà
puisqu'on prête. Les lève pour d'autres pays.
Non, je ne lève pas.
Et qu'il y a même des terres d'exil pour certains pays qui souffrent moins que le vôtre.
Vous savez, Sihanouk n'a pas à lever une armée. C'est une armée qui vient à Sihanouk. Parce que Sihanouk, n'est-ce pas, vous avez devant vous, n'est-ce pas, mon livre, La Chronique de guerre.
Et d'espoir.
Vous savez, c'est Hachette qui a mis ça. Moi, je n'ai pas tellement d'espoir. Mais enfin, il veut que...
Mais c'est terrible de dire ça, que vous n'avez pas d'espoir. Enfin, c'est déjà ralentir les enthousiasmes.
Je n'ai pas d'espoir. Non, je ne veux pas dire. Parce qu'on me reproche d'être irréaliste, vous savez. On me reproche de ne pas jauger le Vietnam comme il le faudrait. Bon, ceci dit, n'est-ce pas, je suis un battant quand même. Je suis un combattant et je n'ai aucune intention de reculer. Je vous dis ceci, n'est-ce pas, Sihanouk, il veut, comme M. Giscard d'Estaing, d'ailleurs, se concentrer sur l'aspect politique du problème. Et autant que possible, je souhaiterais pouvoir arriver à résoudre ce problème à l'amiable avec les Vietnamiens. Mais les Vietnamiens ne me laissent pas d'autre choix que l'armée. Et quand je vous dis que je ne lève pas une armée, je veux dire par là, n'est-ce pas, que cette armée... Elle se fait d'elle-même, elle vient à moi, elle me dit, voilà, c'est vous qui devez être notre commandant en chef. Et j'ai accepté.
Il vous arrive quand même de regarder un peu ce qui se passe dans le monde. Vous n'êtes pas seulement occupé par le Cambodge, qui est pourtant plus que préoccupant. Par exemple, vous regardez l'Iran. Tout à l'heure, vous écoutiez les nouvelles. Vous entendiez, par exemple, que des bataillons se constituaient pour partir du côté de Shelcha pour l'abattre. Et vous voyez ce que font les troupes de Khomeini. Comment vous réagissez?
J'ai envoyé, n'est-ce pas, il y a un mois, plus d'un mois, à Khomeini, n'est-ce pas, un long télégramme le suppliant, n'est-ce pas, d'être compréhensif à l'égard des otages qui sont innocents. Les actes de leur gouvernement, ils les ignorent, ils ne sauraient endosser la responsabilité des actes, par exemple, du gouvernement de Washington. J'ai parlé aussi, j'ai évoqué dans mon télégramme à Khomeini, n'est-ce pas, mon malheur personnel. Je lui dis que je me mets à la place des familles angoissées de ces otages. Alors je lui demande d'avoir pitié de ces otages. J'ai préféré, n'est-ce pas, parler sur un ton plutôt sentimental. Alors, j'ai dit que pour la plus grande gloire de l'islam, qui est la deuxième religion du Cambodge, et que Pol Pot a supprimé, et que je veux rétablir, pour la gloire de l'islam, la plus grande gloire de l'islam, je lui propose de relâcher les otages. Enfin, c'était avant, vous savez, la libération d'une partie des otages. otage. Je ne sais pas si mon télégramme a été pour quelque chose. Alors maintenant, n'est-ce pas, je ne peux pas dire du mal de Khomeini parce que je préfère me réserver un petit rôle, un tout petit rôle auprès de Khomeini pour essayer, n'est-ce pas, de l'amener, n'est-ce pas, à considérer ce problème, ce grave problème des otages sous un angle plus humain. Ceci dit, n'est-ce pas, je regrette fort que on n'ait pas appliqué les règles internationales. Il y a un savoir-vivre international, n'est-ce pas. Il n'y a qu'à déclarer persona non grata, n'est-ce pas, les diplomates qu'on veut condamner, n'est-ce pas. C'est-à-dire la seule condamnation possible, c'est l'expulsion. C'est l'expulsion pure et simple, et non pas la prise en otage.
Prince Norodom Sihanouk, qu'il y a partout des abcès de fixation, mais vous êtes inquiet pour le monde en général. Vous croyez à une guerre demain, parce que on ne peut pas quand même se contenter de toutes ces guerres qui sont quelque part et qui oppriment simplement quelques peuples, laissant les autres dans une forme de tranquillité.
J'ai souvent parlé de la...
J'espère qu'il y a de l'espoir là quand même.
J'ai souvent parlé de la Tchécoslovaquie. Excusez-moi parce que je pense toujours à mon Cambodge.
Je vous comprends très bien.
Je ramène tout à mon Cambodge. Vous savez, j'ai été interviewé par un Jacques Chancel américain en janvier dernier. Et puis il me demandait que pensez-vous de Chou En Lai, que pensez-vous de Mao Tse-tung, que pensez-vous de Gaulle. Je dis c'était de grands hommes. Il dit pourquoi? Parce que je répondais parce qu'ils aimaient le Cambodge. Alors, le Jacques Chancel américain...
Il aime le Cambodge.
Oui, il me dit, mais vous, alors si à nous, on est grand homme ou on est petit homme, selon qu'on aime votre Cambodge ou on ne l'aime pas. Je dis, oui, exactement.
Alors, revenez au Cambodge.
Alors, pour revenir au Cambodge, vous savez, on a tort, le monde a tort. Et surtout l'Amérique qui doit assumer une certaine responsabilité. L'Amérique a déstabilisé le Cambodge en faveur de l'ONOL au détriment de Sihanouk quand il ne le fallait pas. Sihanouk était la seule barrière possible pour contenir ce que les Américains appelaient le « containment of communism », pour contenir le communisme. Alors, les Américains maintenant... qu'il faut, maintenant qu'ils ont le devoir, n'est-ce pas, d'assumer toute leur responsabilité, de se montrer quelque peu, n'est-ce pas, dynamique, quelque peu, n'est-ce pas, volontaire, face quelque peu dur, face à l'expansionnisme vietnamien et derrière lequel se cache l'hégémonisme soviétique. Alors, les Américains abdiquent, n'est-ce pas? Ils se montrent vraiment très, très, très timides. Shy, on dirait en anglais. Bon, ceci dit, j'invite le monde à penser à cette année 1938, l'année de Munich, n'est-ce pas, avec un Daladier, un Chamberlain qui avait accepté, n'est-ce pas, d'aller à Canossa, c'est-à-dire à Munich, chez Hitler, où il y avait déjà Mussolini, lesquels ont fait signer à Daladier, à Chamberlain, n'est-ce pas, tout ce qu'ils voulaient. Et Daladier est revenu à Paris, Chamberlain à Londres, accueilli en héros, en triomphateur, en sauveteur de la paix mondiale. Mais quelle paix mondiale? On a sacrifié la Tchécoslovaquie parce qu'on croyait que... en sacrifiant la petite Tchécoslovaquie, un pays insignifiant, disait-on, n'est-ce pas, on pourrait sauver le reste du monde, sauver la paix mondiale. On n'a rien sauvé du tout. On a eu une catastrophe universelle. C'était la Seconde Guerre mondiale. Bon, maintenant, on sacrifie le Cambodge sous prétexte que ce n'est pas l'Iran, qu'il n'a pas de pétrole, etc., que c'est un pays pauvre, un pays de rien du tout. Eh bien, on a tort. Parce que après le Cambodge, ce sera le Sud-Est asiatique. Le reste du sud-est asiatique qui sera menacé directement et peut-être probablement agressé par le duo là, Vietnam-URSS. Parce que qui occupe l'Indochine a la clé du sud-est asiatique. Et quand le sud-est asiatique tombe, alors c'est l'Amérique qui sera menacée directement. À quoi sert la septième flotte? À l'heure actuelle, les marins de la flotte, je crois que c'est la septième flotte américaine, n'est-ce pas, s'intéresse plus aux belles filles de Bali ou aux belles filles de Philippines ou aux geishas japonaises, plutôt, n'est-ce pas, qu'à l'affaire du Cambodge. Eh bien, je crois qu'il est temps que les Américains et les autres, n'est-ce pas, regardent plus attentivement vers le Cambodge. Le Cambodge, c'est la Tchécoslovaquie. Donner le Cambodge à l'autre camp, c'est comme on a donné la Tchécoslovaquie à Hitler, avec les conséquences que vous savez.
On peut dire, Prince Norodom Sihanouk, que vous êtes le moins des anti-vietnamiens du Cambodge. Vous avez toujours essayé d'avoir du moins de très bonnes relations avec le Vietnam. Et il faut dire aussi que sur le plan d'un vieux passé, à ce plan-là, il y a eu quand même quelques querelles entre les Cambodgiens et les Vietnamiens. Il y avait une certaine, je ne dirais pas le mot haine, mais une rivalité vraie. Et vous n'étiez pas anti-vietnamien. Et vous l'êtes cette fois-ci totalement devenu.
Oh non, je n'ai pas de haine contre le Vietnam. Je suis très bouddhiste à cet égard. Je n'ai aucune haine, je vous assure, vis-à-vis du Vietnam.
Je vous crois si vous me le dites.
Non, c'est vrai, je n'ai aucune haine. Mais n'est-ce pas, en tant que patriote, je dois naturellement condamner la colonisation du Cambodge par le Vietnam. Ceci dit, vous savez, je diffère encore de beaucoup de Cambodgiens. Premièrement, je suis toujours disponible pour des pourparlers pacifiques et amicaux avec le Vietnam. Pendant, il me rejette. Pourquoi? Parce qu'il craint en face à face avec Sihanouk, parce que Sihanouk a tellement fait pour les Vietcong, pour les Nord-Vietnamiens pendant les années de malheur de ces messieurs-là.
La France à ce moment-là?
Non, pas contre la France, voyons. Je me suis battu avec l'armée française, voyons. Aux côtés de l'armée française, pas contre l'armée française, attention. Dans les années 1947 jusqu'à la conférence de Genève, j'ai fait des opérations en coordination avec l'armée française contre le Viet Minh. Mais j'ai été contre les Américains pour...
Mais je veux dire par là que votre situation vous a obligé, à différents moments de votre vie, vous a obligé à être l'adversaire de tout le monde.
Attendez, n'est-ce pas, excusez-moi, je dois terminer mon exposé. Premièrement, alors, j'ai dit premièrement. Deuxième moment, n'est-ce pas, je ne veux pas chasser inconditionnellement l'armée vietnamienne de mon Cambodge. Parce que je demande que, avant que l'armée vietnamienne ne parte du Cambodge, à supposer qu'elle veuille bien partir, et là nous sommes loin du compte. Alors je veux qu'il y ait une force internationale, des casques bleus par exemple, mais si les casques bleus ne peuvent pas venir, que le mouvement des non-alignés auxquels appartiennent le Cambodge et le Vietnam, n'est-ce pas, nous envoie une force internationale des pays non alignés, n'est-ce pas, en quantité suffisante au point de vue effectif pour prendre la relève de l'armée vietnamienne. Parce que vous pensez bien que si on fait partir l'armée vietnamienne inconditionnellement du Cambodge, eh bien alors là, messieurs les assassins du peuple cambodgien, messieurs Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan et compagnie, ils vont se réinstaller au pouvoir, ils vont recommencer leur mauvais coup contre le peuple cambodgien. Et là, n'est-ce pas, les pays de l'ASEAN, les pays d'Europe même, l'Amérique même n'ont pas vu ça, ils ne veulent pas voir ça. Ils parlent de faire partir les Vietnamiens inconditionnellement.
Donc à aucun moment, Pol Pot et ses amis ne peuvent être pour demain des gens qui aideront le prince Sihanouk à reprendre son pays.
Non, moi, je suis fâché pour toujours avec les Khmer Rouges.
Ce sont des ennemis de plus, donc.
Vous savez, en tant que bouddhiste, je vous répète, je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine, même s'ils ont massacré beaucoup de mes enfants et de mes petits-enfants. Ceci dit, je ne peux tout de même pas livrer mon peuple parce qu'ils m'appellent papa. Ce sont mes enfants. Moi, je ne fais aucune distinction entre mes propres enfants et le peuple qui est aussi mon enfant. Je ne veux pas que messieurs les Khmer Rouges tuent mon enfant. Alors, faire partir inconditionnellement l'armée vietnamienne, c'est livrer le peuple cambodgien aux Khmer Rouges. C'est pourquoi il faut absolument conditionner le départ des Vietnamiens par l'occupation du Cambodge par une force internationale. Je demande même 10 ans au minimum. au minimum 10 ans. C'est pour permettre au futur gouvernement élu par le peuple, au suffrage universel et au scrutin secret, de reconstruire le Cambodge. Pour cela, il faut la paix. Et si les Vietnamiens partent inconditionnellement, sans être remplacés par une force internationale, pour faire la paix, pour imposer la paix aux Cambodgiens, il y aura une guerre civile. Une guerre civile.
Le Cambodge comptait, il y a une dizaine d'années, 7 500 000 habitants, à peu près.
Oui, oui. Or, en 1969.
Bon. 1969. Aujourd'hui.
Aujourd'hui, 3 millions et demi.
On peut considérer qu'il y a 4 millions de morts.
Oh oui, oui, sans exagérer. Parce que les Khmers Rouges sont responsables de la mort de 3 millions environ de Cambodgiens et Cambodgiennes, morts par les massacres, le génocide, morts par les maladies, morts par la faim, morts par les travaux forcés sans repos. Bon, et puis, il y a la guerre entre les Khmers Rouges et les Vietnamiens Rouges. Et puis, et le génocide maintenant par les Vietnamiens, qui laisse mourir de faim les Cambodgiens, n'est-ce pas? Ils ne distribuent pas tellement, n'est-ce pas, les aides qu'on donne, là, que l'UNICEF, la Croix-Rouge internationale, donne aux peuples.
Vous êtes sensible à tous ces efforts, par exemple, je pense aux efforts des Médecins Sans Frontières, à tout ce qui est fait, et souvent dans l'anonymat et la difficulté.
La difficulté, ce sont des Schweitzers, vous savez, des...
Ah oui.
Oui, de grands hommes. Je leur rends hommage. Je suis très sensible à leurs gestes. Et aussi aux gestes de tant d'autres hommes et femmes de bonne volonté. Je les remercie très respectueusement.
Lorsque vous faites le bilan de cette vie, avez-vous l'impression d'avoir connu à un certain moment l'échec et de ne pas pouvoir... vraiment le vaincre, c'est l'échec.
Si je ne parlais que de moi, et comme je l'ai dit à Kissinger, parce que Kissinger est allé me voir il y a quelques mois à Pékin. Alors lui, naturellement, il a une très haute opinion de lui-même. Et puis,
il ne vous a pas tellement aidé dans une certaine période, Kissinger.
Non, mais il me dit, Prince Sihanou, vous allez échouer cette fois-ci, vous allez échouer. N'est-ce pas, parce que les Vietnamiens sont arrivés à me tromper, moi, Kissinger, sont arrivés à nous tromper, nous, les Américains. C'était en 1973. Il évoquait sans doute, n'est-ce pas, cet accord, l'édicto Kissinger, en France, justement, qui a valu à l'édicto à Kissinger le prix Nobel. Ça a fait rigoler tout le monde, entre parenthèses. Alors, Kissinger me dit, parce qu'il craint, une réussite de Sihanou maintenant. Parce que, alors, il me prédit carrément, n'est-ce pas, un échec total auprès des Vietnamiens. Parce que si je réussis, alors je serais supérieur à Kissinger. Or, pour Kissinger, il me semble qu'il est difficile d'imaginer quelqu'un de supérieur. Bon, mais pour taquiner un peu Kissinger, je lui dis, vous savez, jusqu'ici, je n'ai jamais eu d'échec. Parce que quand l'ONOL m'a déposé, les Américains et les Londoniens pensaient qu'ils seraient les vainqueurs et que Sihanou était fini. Pourtant, j'ai aidé les Khmers Rouges, j'ai combattu mes ennemis, c'est-à-dire le néocolonialisme américain, jusqu'à la victoire. Parce que le 17 avril 1975, ça a été aussi ma victoire sur les Américains et sur les Londoniens. À tel point qu'à l'heure actuelle encore, il y a des Français, il y a d'autres qui m'accusent d'avoir aidé les Khmers Rouges à vaincre l'autre camp. Bon, ceci dit, je n'ai pas été battu par les Vietnamiens quand les Vietnamiens ont battu les Khmers Rouges en janvier 1979, puisque j'étais, n'est-ce pas, déjà à la retraite. J'ai proposé aux Khmers Rouges au début de 1978, parce que là, n'est-ce pas, c'était un point d'histoire que je dois vous signaler aujourd'hui. Je désapprouvais les Khmers Rouges, c'est pourquoi j'ai démissionné. Mais lors de la première grande confrontation guerrière entre les Khmers Rouges et les Vietnamiens, il apparaît que les Vietnamiens ont occupé, ça je l'ai su par les radios étrangères, parce que j'écoutais clandestinement les radios
étrangères. Vous étiez prisonnier là.
J'étais prisonnier là. Mais j'ai vu que les Vietnamiens... Ils commençaient déjà à s'infiltrer au Cambodge. Alors, ce qui me hantait, c'est justement la perte de notre intégrité territoriale. Je dis aux Khmers Rouges, messieurs, n'est-ce pas, vous êtes le gouvernement, je ne veux pas prendre votre place, loin de là. Mais les Vietnamiens me doivent de la reconnaissance. Alors, est-ce que vous me permettez de voir les Vietnamiens rien qu'au sujet de l'intégrité territoriale du Cambodge, car les Vietnamiens commençaient déjà à occuper aussi des îles côtières du Cambodge, dont l'importante île Wai, dans les environs duquel on de laquelle on pense qu'il y a du pétrole. On ne l'a pas encore trouvé, mais je pense que la dispute vient aussi de ce qu'il y a probablement du pétrole là. Bon, alors j'ai dit au Khmer Rouge, est-ce que vous voulez bien me permettre de parler aux Vietnamiens pour qu'ils respectent notre intégrité territoriale? C'était en janvier 1978. Les Khmer Rouges n'ont même pas daigné répondre à ma lettre. C'est vous dire, n'est-ce pas, que je ne suis en rien responsable de ce qui est arrivé au Cambodge, c'est-à-dire comme malheur, comme défaite, dont je suis encore invaincu jusqu'ici. N'est-ce pas, à un moment donné, on parlait d'une équipe de Reims ou d'une équipe de Saint-Étienne, n'est-ce pas, qui restait invaincue jusqu'au moment où l'équipe est vaincue. Bon, ceci dit, n'est-ce pas, je suis encore invaincu, alors qu'on me permette quand même de tenter ma chance.
Enfin, le Cambodge devrait reprendre son pays demain, mais je voudrais quand même, Prince Norodom Sihanouk, faire peut-être un peu d'histoire sur vous-même. Parce que vous avez une personnalité que l'on entend, que l'on voit, que l'on ressent tout de suite. Et je me rappelle vous avoir vu en certaines circonstances. J'étais là lorsque votre père, le roi Suramarit, a été couronné.
Oui, monsieur.
Vous étiez là, vous acceptiez, c'était tout à fait exceptionnel qu'un roi abdique en faveur de son père. Et puis je vous ai suivi, comme vous ont suivi tous les autres, très longtemps. Et pour beaucoup, vous paraissiez encore turbulent, changeant, instable, fantaisiste. Et parfois même, lorsque, dans les conversations les plus sérieuses, vous avez quelque chose à dire, vous avez un visage qui a des sourires qui peuvent étonner, parce que j'ai entendu certains dire « cela l'a fait rire ». Et ce n'est pas du tout cela. C'est que vous avez une manière de parler et de dire qui est tout à fait caractéristique de ce que vous êtes. Vous êtes... Et c'est important parce que les gens ne croient qu'à certains moments, dans les sujets graves, vous plaisantez encore. Et c'est pour vous une défense.
Vous savez, on est allé voir les Cambodgiens les plus malheureux qui se trouvent dans les camps de misère en Thaïlande. On n'a pas vu que des gens qui pleuraient. Et il y avait très peu de gens qui pleuraient. Beaucoup de gens souriaient, beaucoup de jeunes, beaucoup de même des adultes qui souriaient, parce que le sourire cambodgien, n'est-ce pas, c'est pour cacher, parce que nous sommes quand même une race qui a de la pudeur. Nous ne sommes pas des impudiques. On dit que mon rire est impudique, mais on cache les larmes derrière les larmes du cœur derrière le paravent du sourire ou même du rire. Vous savez, il y a aussi des comédies françaises ou bien des drames, des pièces de théâtre. J'ai lu beaucoup de pièces de théâtre. Quelquefois, on fait rire à gorge déployée une actrice ou un acteur pour cacher le désarroi. Leur désarroi, le désarroi de leur personnage.
Pardonnez-moi de vous avoir demandé cela, mais je voulais que vous puissiez le dire.
Oui. Mais vous savez, j'ai le sourire cambodgien. Je suis né, n'est-ce pas Je suis cambodgien à 100%. Qu'on ne croit pas que je ne suis pas sensible au malheur de mon peuple. Qu'on ne croit pas cela. Et puis, vous savez, j'ai toujours servi mon pays. On dit que je suis changeant, alors que ce sont les autres qui ont changé. Regardez les Américains, n'est-ce pas? Ce sont eux qui... regardez Kissinger. Avant, il était anti-Sihanouk à 150%. Maintenant, n'est-ce pas, il prétend qu'il a toujours été pro-Sihanouk, n'est-ce pas? Il me l'a dit.
C'est la politique qui change, vous savez, c'est une grande dévergondée.
Moi je suis obligé d'adapter ma politique, d'adapter mes déclarations à l'évolution des gens, des choses, des événements. Je ne suis rien du tout à côté de cette machine extraordinaire, formidable, qu'est le monde diplomatique, le monde politique. Je fais ce que je peux. Ceci dit, n'est-ce pas, je veux bien citer, n'est-ce pas, un rédacteur de La Croix, le journal catholique, je crois, La Croix. Il dit... Sihanouk est un personnage insupportable, mais il devient émouvant parce qu'il est patriote. Bon, alors on peut me juger comme on voudra.
Si le Cambodge avait le bonheur demain de redevenir cambodgien, seriez-vous à ce moment-là, une fois encore, le roi du Cambodge?
Ah, monsieur, non, justement,
J'ai juré que je ne serai jamais le roi du Cambodge. Et d'ailleurs, je ne veux pas diviser davantage les Cambodgiens. Nous sommes déjà suffisamment faibles comme cela. C'est pourquoi maintenant, je rallie tous les républicains et l'immense majorité des républicains en même temps que les royalistes autour de moi, parce que je leur propose ceci: au cas où nous pourrions récupérer notre Cambodge, le refaire indépendant, libre, alors il faudrait l'appeler tout simplement le Cambodge, au lieu que ce soit royaume ou république. Le Cambodge, l'État du Cambodge, le président du Cambodge ou le roi serait remplacé par le chef de l'État du Cambodge. Le gouvernement serait GNC, gouvernement national du Cambodge. L'armée est ANC, armée nationale du Cambodge.
Aujourd'hui, aujourd'hui vous êtes royaliste ou vous êtes gauchiste?
Ah, je ne suis plus gauchiste, pas du tout, pas du tout. On peut dire que je suis plutôt droitier, oui. Parce que, comme disait un ami français à moi, n'est-ce pas, dans le temps, il me disait ceci: si on n'est pas un peu à gauche quand on est jeune, ça ne va pas. Mais si on n'est pas à droite quand on est vieux, ça ne va pas non plus. Alors, moi, je fais comme mon ami m'a conseillé, un peu à gauche dans ma jeunesse, maintenant à droite dans ma vieillesse.
Quel âge avez-vous?
J'ai 58 ans. Je suis né le 31 octobre 1922.
C'est jeune pour reprendre le combat?
Oh oui, je me sens bien en forme, oui. Enfin, j'ai fait beaucoup de sport dans le temps. Il me reste quelque chose.
Alors, il y a cette petite phrase que vos amis disent: notre crédibilité dépend de notre force militaire. Et on revient au même sujet.
Oui, oui.
Et vous
oui,
le savez?
Oui, je...
Et vous ne pouvez rien dire? C'est oui. Une position difficile que la vôtre. C'est pour cela que peut-être faut-il partir.
Partir où?
Comme je vous le disais tout à l'heure, sur la frontière.
Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord là.
Soyez tout à fait franc, vous n'êtes pas très bien dans des pays qui ne sont pas le vôtre aujourd'hui.
Non, je ne me sens pas à l'aise, vous savez. Oui, je suis, vous voyez, assez francisé, plutôt très siano, les Français... trouve que je ne suis pas... enfin, j'ai tort de dire que je suis francisé, car les Français ne sont pas comme si à nous. Bon, mais je ne me sens pas chinois ou coréen, mais je suis obligé, parce que étant...
Vous êtes de culture française?
Oui, de culture française. Bon, mais de style très sihanoukien quand même.
Qu'est-ce que c'est le style sihanoukien?
C'est-à-dire, c'est un style qui déroute tout le monde et que les Français ne trouvent pas du tout français. Et que les Chinois trouvent encore, que les Chinois ne trouvent pas du tout chinois. Enfin, mon peuple même, tel que je suis, ça me suffit comme ça.
J'aime bien ce que vous disiez de vous-même une fois. Vous parlez de vous, hein. Un peu original, ou si vous voulez, bizarre. Un peu incompris, ou si vous voulez, incompréhensible. C'est bien cela?
On ne prête qu'aux riches, vous savez.
Ah, mais c'est vous qui le
dites.
Je ne suis
pas sûr. Ah oui. Oui,
bon. Oui,
vous savez, j'ai dit tellement de choses que je ne peux pas me rappeler tout ce que j'ai dit. Mais enfin, il y a une chose qui est constante en moi, c'est mon amour du Cambodge, c'est mon amour de mon peuple.
Peut-on dire des Cambodgiens qu'ils sont raffinés pour tout ce qui est la beauté et qu'ils sont également raffinés pour ce qui pourrait être la cruauté?
Oui, vous savez, on... présenté beaucoup en France, d'ailleurs, le film Fu Manchu.
Oui.
Fu Manchu, le chinois, là, très raffiné en tant que civilisation. Le palais de Fu Manchu était plein d'objets d'art. Et puis Fu Manchu était raffiné aussi dans la cruauté. Je n'en sais rien, vous savez, parce que... en Europe, on a eu Hitler aussi, mais on dit que la race allemande est prédisposée à la cruauté. Ceci dit, la race cambodgienne, elle n'appartient pas à cette famille. Vous savez, Chine, Corée, Mongolie ou Japon. Parce que la race cambodgienne appartient plutôt à la famille, vous savez, des Indonésiens, Malaisiens, etc. Alors, dans ces pays-là, on a ce qu'on appelle le Amok. Parce que c'est une race douce, gentille, aimant plutôt les chants, les danses, l'amour. Mais quelquefois, il y a un vent de folie qui souffle sur elle, sur cette race. Alors elle devient méchante, cruelle. Et puis après, elle redeviendra calme. J'espère que le amok chez nous va faire place bientôt, plutôt tôt que tard. N'est-ce pas, à notre
joie de vivre d'antan, notre douceur de vivre d'antan.
Et puis, il faut faire attention à tout ce que vous promettent les gouvernements, Prince Norodom Sihanouk, parce que je sais, ils vous le disent d'abondance, laissez-nous faire, nous allons convaincre Hanoï et les autres. Alors, faut-il vraiment y croire ?
Je n'y crois pas beaucoup. J'ai dit d'ailleurs à M. le Président Giscard d'Estaing et à son ministre des Affaires étrangères, M. François Poncé, que les Vietnamiens ne comprendraient qu'en langage de force. Ça, la diplomatie, si fine, si intelligente, si amicale soit-elle, si séduisante soit-elle, si française soit-elle, n'arrivera pas à amener le Vietnam à accepter une solution pacifique au problème cambodgien.
Je souhaite une seule chose, que le Cambodge revienne aux Cambodgiens. Je vous remercie, Prince Norodom Sihanouk.
Je vous remercie infiniment, M. Chancel.